Je reviens donc à Vasari et à la présentation de son ouvrage qui est un moment tout à fait essentiel dans l'historiographie de l'art, comme vous le savez. Alors, j'avais commencé à vous parler de lui à propos de l'essai fameux de Erwin Panofsky qui a étudié précisément cette question comment Vasari innove-t-il, comment rompt-il avec une tradition historiographique qui n'est pas encore très ancienne, cependant qui remonte déjà au XIVe siècle, et comment, par ailleurs, essaye-t-il à la fois de faire un ouvrage qui satisfasse les attentes de son temps, de son époque, attentes venant aussi bien des artistes que des collectionneurs, que des amateurs d'art, et attentes venant également des historiens, car il s'agit, ni plus ni moins, de justifier l'existence même d'une vie ou de vie d'artiste. Alors, il y a, dans la genèse de son livre, en fait, il y a deux moments. Il y a la première édition et la deuxième édition, qui ne sont pas simplement une succession de remaniements par rapport à un premier livre, ce qui est souvent le cas dans une réédition. Le deuxième livre est un livre différent du premier. Il faut bien savoir que l'édition de 1550 et l'édition de 1568 sont fondamentalement différentes et qu'ils justifient abondamment dans la deuxième édition les différences. Pourquoi il a changé, en quoi il a changé et tout ce qu'il considère qu'il apporte par la deuxième édition. Alors, la lecture des deux éditions est absolument indispensable. Si l'on veut constater à quel objectif se limite son premier livre, en 1550, et comment il élargit cet horizon historiographique, et aussi, pas seulement comment il l'élargit, mais à partir de quelles bases nouvelles, à partir de quelles informations nouvelles, à partir de quels contacts il modifie son projet. Bien que le titre restera le même. Alors, pour comprendre la genèse de l'édition, de la deuxième édition, il faut connaître cette personnalité de Vincenzo Borghini, Borghini, B-O-R-G-H-I-N-I, l'auteur d'un livre sur l'origine de Florence, écrit au début des années 60, 1560, et il existe entre Vasari et Borghini une correspondance abondante que l'on peut dater entre 1546 et 66. Et la deuxième édition paraît donc en 68. Ça veut dire que cette correspondance avec Borghini a accompagné la genèse de la deuxième édition. Alors, notamment, on peut extraire de cet échange intellectuel plusieurs points. D'abord, Borghini fait des observations sur la première édition de Vasari et sur, évidemment, des contacts privés, oraux, qu'il a avec Vasari. Donc, cette correspondance reflète à la fois un échange intellectuel, on pourrait dire permanent dans cette époque, et en même temps la prise en compte de cette première édition. Alors, Borghini porte ses observations sur trois points. Il souhaite que Vasari limite la biographie à des informations sur les œuvres. Donc, en fait, l'aspect biographique plus général qui accorderait une attention plus grande à la psychologie de l'artiste, à tout ce qui constitue les mécanismes intellectuels, mentaux, à partir desquels les œuvres vont advenir. Tout cela lui paraît secondaire par rapport à des informations sur les œuvres. Et en effet, Vasari va tenir compte de cette observation, puisque Dans la deuxième édition, nous verrons que la place donnée à cette information est considérable, et pour deux raisons que j'expliquerai plus loin. Ensuite, Borghini suggère que l'information la plus complète soit donnée en faveur d'artistes contemporains, donc d'artistes qui sont encore en vie. Autrement dit, Borghini suggère que l'ouvrage de Vasari ne soit pas seulement un ouvrage d'histoire qui raconte des faits relativement éloignés dans le temps, mais s'attache également à faire ce que nous appellerions aujourd'hui tout simplement de la critique d'art, puisqu'il s'agit de parler d'artistes vivants. Et on imagine la difficulté pour Vasari de parler d'artistes vivants. Il est lui-même artiste, ne l'oublions pas. Et il prend aussi là la pose du critique. En tout cas, c'est ce que suggère Borghini. Et enfin, troisième observation de Borghini, c'est de dire il faut vérifier les faits. Il faut vérifier les faits. Il ne faut pas se laisser emporter par une pure imitation, un calque des sources. Il faut vérifier les faits. Que veut dire vérifier les faits en histoire de l'art ? Même si cette dénomination pour le livre de Vasari n'est pas tout à fait juste, mais qu'est-ce que ça signifie de vérifier les faits ? Vérifier à la fois si ce qui est dit sur les artistes, ce qu'il apprend comme information sur les artistes est exact, mais aussi où se situent les œuvres, dans quel état sont-elles. Les faits, pour Vasari, ce sont aussi des œuvres. Alors, nous sommes à une époque où, donc milieu et troisième quart du XVIe siècle, où certains historiens pensaient que seule une personnalité publique pouvait faire l'objet d'une biographie. C'est-à-dire que l'idée qui avait été déjà manifestée par les prédécesseurs de Villani et que Villani avait reprise, mais d'une manière extrêmement pudique, en disant « Oui, bien entendu, on a l'habitude de faire l'éloge des grands hommes, mais les artistes doivent être inclus dans cet éloge. » Eh bien, cette idée n'a toujours pas percé. Malgré Villani, malgré ses successeurs, on n'a pas encore admis absolument qu'un artiste fasse l'objet d'une biographie. Un soldat qui s'est illustré dans des guerres, un souverain, bien sûr, exceptionnellement un philosophe ou un poète peuvent faire l'objet d'une biographie, mais certainement pas un artiste dont la vie ne peut être que fade. L'artiste, c'est ce qu'il produit. Sa vie elle-même semble à ses historiens parfaitement sans intérêt. Il faut bien noter là une difficulté indiscutable. C'est que la biographie d'artiste doit nécessairement être confrontée à la production de l'artiste. Et je dirais que la biographie d'artiste, par moment, est entièrement éclairée par sa production artistique, et à d'autres moments, l'auteur d'une biographie pense, au contraire, éclairer les œuvres à travers la personnalité de l'artiste. C'est quelque chose, je dirais, que nous connaissons encore aujourd'hui. Vous ouvrez la biographie d'un artiste aujourd'hui. Alors, bien entendu, je ne parle pas de tout le travail savant qui est évidemment beaucoup plus avancé, beaucoup plus subtilement analysé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de Vasari, ça va de soi. Nous avons énormément d'informations en plus que celles qu'avait Vasari. Nous ne faisons plus confiance aux fables que Vasari distille avec une facilité comme s'il avait des événements historiques à narrer. Évidemment. Cependant, dans la plupart des cas, les biographies, même aujourd'hui, sont encore en partie commandées, structurées par cette dialectique entre la psychologie de l'artiste et ses œuvres. Que fait la psychologie par rapport à l'œuvre ? Que fait l'œuvre par rapport à la psychologie dans le processus d'intelligibilité de ces moments et de ces grandes figures. Alors, dans l'édition de 1568, Vasari s'intéresse à la totalité des œuvres de tous les artistes importants. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il tente d'agréger un corpus le plus complet possible sur les artistes dont il nous parle. Et en outre, il respecte l'ordre chronologique, ce qui est aussi quelque chose qu'il faut relever, ce souci de la chronologie, qui est évidemment un élément important dans cette genèse d'une histoire des artistes. Ce qui est intéressant aussi dans les observations de Borghini, j'y reviens, c'est qu'il pensait que Vasari devrait appeler son livre « Une historia universale », donc l'intégrer dans toute une tradition d'histoire universelle, ce qui est évidemment un projet que nous avons beaucoup de mal à comprendre, nous avons même toutes les difficultés à saisir l'intérêt. Comment peut-on écrire une histoire universelle de l'art au milieu du XVIe siècle ? Pourtant, cette observation a eu comme effet dans le travail de Vasari qu'il a élargi le nombre de biographies en passant de 150, qui était le nombre de biographies de la première édition, à 198. Donc on peut dire qu'il a ajouté 25% d'artistes, ce qui est considérable. Alors bien sûr, parfois Vasari rassemble plusieurs artistes en une seule biographie, enfin en une seule biographie, en un seul texte, disons en tout cas. Et puis, il existe aussi, dans la deuxième version, un plus grand nombre de grandes biographies. Cela signifie quoi ? Cette simple observation statistique nous fait comprendre que l'abondance du matériau, le fait de passer de 150 à 198, l'abondance du matériau l'incite à le prendre en compte. Il ne renâcle pas à la tâche, même si c'est un travail considérable d'accumuler toutes ces informations, il est pour lui important que son ouvrage tende à une certaine exhaustivité, toute relative, évidemment, j'en reparlerai aussi. Mais enfin, le projet d'un ouvrage exhaustif est là, indiscutablement. Et puis, ce qui semble aussi tout à fait intéressant chez Vasari, c'est que non seulement il tend à l'exhaustivité, mais là où il le peut, il essaye de donner toutes les informations dont il dispose pour un artiste qui lui paraît majeur, pour une raison ou pour une autre. Donc, au fond, ce déséquilibre qui va naître au sein de la deuxième édition, en gonflant certaines personnalités par rapport à d'autres, en grossissant leur impact dans l'histoire de l'art, dans le développement de l'histoire de l'art, montre qu'il a conscience qu'il y a des figures centrales à côté de figures secondaires. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi, cette manière de rendre certaines personnalités plus éminentes que d'autres. J'arrive à un autre point qui est beaucoup plus important que ce que je viens de dire encore, c'est l'idée qu'a formulée Borghini que le témoin oculaire de l'histoire doit avoir une grande importance. Le témoin oculaire de l'histoire. Encore une fois, Borghini est un historien. Le témoin oculaire de l'histoire, c'est celui qui a observé des faits, qui les narre, qui les raconte, qui peut les raconter à un historien s'il ne l'est pas lui-même. Mais ce témoignage est quelque chose qui paraît tout à fait essentiel. Alors, ce témoignage a une signification, je dirais, autant historique, tout simplement historiographique, que juridique, évidemment, le témoignage. On n'écrit jamais mieux que sur les faits dont on a été le témoin direct. Et j'aurai l'occasion, je ne sais pas si ce sera encore aujourd'hui ou dans la suite de ce cours, de donner des exemples parmi d'autres grandes personnalités du XVIe siècle qui ont accordé brusquement, en effet, une très grande importance au témoignage oculaire. Je pense, par exemple, à Montaigne dans ses essais. Il y a à plusieurs reprises une allusion à l'importance du témoignage oculaire, du témoin direct, qui écrirait mieux l'histoire que n'importe qui d'autre. Ce qui limite évidemment considérablement le rôle de l'histoire et de l'historien. Il est curieux de noter que Borghini considérait Vasari comme un meilleur écrivain qu'un analyste des œuvres. Or, nous allons voir que Vasari pense le contraire. Vasari pense qu'il est un mauvais écrivain. Enfin, il a parfois des excès de modestie à côté des excès contraires où il se dresse lui-même des couronnes de laurier. Borghini pense qu'il est un bon écrivain, et c'est exact, il écrit d'une manière extrêmement fluide et agréable, mais le fait qu'il conteste, qu'il critique d'une certaine manière sa capacité à décrire les œuvres d'un artiste, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est justement ce point-là qui devrait faire l'originalité de cette deuxième édition d'Evi. Savoir analyser les œuvres. Comment procédait Vasari ? Eh bien, il procédait évidemment en rapportant l'opinion que les témoins ou les chroniqueurs avaient d'un artiste. Il se sert de ces documents et recueillir l'opinion d'une source, dans une chronique par exemple, sur un artiste, c'est évidemment recueillir sa subjectivité, la subjectivité de ce chroniqueur. Et ou bien Vasari, dans ce cas, amplifie cet éloge, le grossit encore, on pourrait dire parfois qu'il y ajoute sa propre sensibilité littéraire, ou bien au contraire, il se défie d'un tel éloge, d'une telle appréciation, et dans ce cas, il n'est pas objectif non plus. On peut dire que de toute manière, dans ce cas, l'historien ne peut en rien prétendre à l'objectivité. En même temps, il a une manière assez habile d'utiliser ses sources. Je vais vous donner un exemple. Dans la biographie d'un artiste qui s'appelle Taddeo Zuccari, Z-U-C-A-R-I, Zuccari, une biographie que Vasari semble avoir fait écrire en partie à son frère, un frère de Taddeo, qui s'appelait Federico Zuccari. Donc il a utilisé du matériau d'une manière, je dirais, de brutale. Hein. Il n'a pas dû faire beaucoup d'arrangements à ce texte. Il a pris simplement ce texte du frère de l'artiste. Et en même temps, il existe à la Bibliothèque nationale de France un exemplaire des vies de Vasari où il y a des annotations de Federico Zuccari, donc celui qui aurait donné la matière du texte même sur son frère, et ses remarques marginales sont très critiques. Alors cela est très curieux, ça veut dire que lui-même a donné le matériau à l'aide duquel Vasari a écrit sur son frère Taddeo, et en même temps conteste cette manière de l'avoir utilisé. Et pourquoi ? C'est assez facile à comprendre, parce que en réalité, Vasari mentionne dans sa biographie de Taddeo Zuccari, l'opinion publique et oppose l'opinion publique à l'éloge un peu trop appuyé du reste du texte. Donc c'est très intéressant de voir comment, à la fois, Il fait sien ce commentaire très favorable écrit par le propre frère de l'artiste, mais en même temps, il prend une sorte de distance en invoquant l'opinion publique, ce qui fait qu'il se met dans une position d'arbitre, mais un arbitre qui pencherait plutôt du côté de l'opinion publique, ce qui est évidemment parfaitement compréhensible quand on connaît les ambitions et politiques et artistiques de Vasari, qui voulait plaire à l'opinion publique et ne pas l'avoir contre lui. Donc voyez comment habilement il utilise à la fois ses sources, il les fait même, il a même recours à des témoins oculaires et à des témoins de première main, des témoignages de première main, mais en même temps, il introduit des distances critiques qui sont extrêmement curieuses. Mentionner l'opinion publique, convoquer l'opinion publique, est évidemment extrêmement facile et met en général les plus importantes critiques de son côté. C'est encore le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut encore noter, c'est que dans cette édition de 1568, Vasari complète les biographies des artistes du XVIe siècle qu'il avait abordées dans l'édition de 1550. Donc, la biographie des artistes du XVIe siècle finit par occuper plus de place que toute l'histoire de l'art depuis les Étrusques jusqu'à Botticelli. Donc il y a vraiment un déséquilibre au profit du XVIe siècle, c'est-à-dire l'époque dans laquelle Vasari lui-même vit et écrit. Peut-être un dernier point que je voudrais encore ajouter à propos de Borghini, c'est l'exigence qu'il manifeste envers Vasari en lui demandant de donner des informations plus complètes sur les œuvres, notamment sur les thèmes iconographiques représentés dans ces œuvres et sur les lieux de leur conservation. Vous voyez ici un souci de rigueur, toujours poussant Borghini, historien, je le répète une fois encore, à trouver que l'originalité de ce travail, du livre de Vasari, devrait résider en grande partie dans la précision qu'il apportera à la présentation, à l'évocation, à la localisation des œuvres d'art. Donc la conception historique de cette deuxième édition, de cette deuxième version, faudrait-il dire, de Vasari, est exigeante parce qu'elle essaye d'intégrer un plus grand réalisme dans la narration historique. Alors, je voudrais juste évoquer, mais brièvement, j'y reviendrai un peu plus loin, ce qui constitue peut-être une des contradictions, il y en a plusieurs, à l'œuvre dans les écrits de Vasari, lorsque, par exemple, il se présente comme un adversaire des œuvres gothiques, nous le verrons, j'ai apporté un texte qui le montrera d'une manière très éloquente, et en même temps, il loue des artistes comme Orcagna, dont il dit pourtant qu'il travaille dans la manière tudesque, la maniera tedesca, c'est-à-dire la manière gothique. Ou encore, à propos d'un artiste comme Gaddo Gaddi, G-A-D-D-I, voici ce qu'il écrit, un texte court, mais tout à fait intéressant. « Je pourrais m'étendre davantage au sujet de Gaddo, mais puisque les manières des peintres de cette époque, nous sommes au XIVe siècle, ne peuvent pas être du plus grand bénéfice pour nos artistes, je les passerai donc sous silence et m'emploierai à parler plus longuement des vies de ceux qui ont montré qu'ils pouvaient être utiles en quelque façon en ayant fait progresser les arts. » Fin de citation. Il mentionne des artistes qu'il considère comme ne faisant absolument pas partie des gloires dont il veut faire l'éloge, des figures glorieuses dont il veut faire l'éloge, mais il les mentionne tout de même. Donc il les replace dans une séquence historique. Et ce qu'il déplore, c'est que ces figures qu'il ne fera que mentionner n'ont pas contribué au progrès des arts. La notion de progrès des arts est une notion centrale à laquelle je serai amené à me référer encore. Je vais à présent commencer la lecture de quelques textes de Vasari. Certains sont particulièrement longs, je les interromprai par des commentaires, mais ces textes que j'ai choisis, en réalité, nous font entrer dans ce livre, je dirais, par ses aspects à la fois théoriques, par les aspects plus historiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une théorie de l'histoire chez Vasari ? Elle n'est évidemment pas explicite, mais nous pouvons en effet conclure, à la lecture de ces textes, à une véritable pensée historique qu'il est amené à illustrer. La première fois que j'entrepris d'écrire ces vies, mon intention n'était pas de faire l'inventaire des artistes avec le catalogue de leurs œuvres. Retrouver le nombre, le nom, la patrie des artistes, dire en quelle ville et en quel endroit précis se trouvent à présent peintures, sculptures et monuments, ne me paraissait pas une fin suffisante pour justifier mes peines, longues et fastidieuses, certes, mais dont j'ai tiré un certain plaisir. Un simple tableau aurait suffi sans aucune intervention critique de ma part. Au fond, ce qu'il décrit là, dans un premier paragraphe, c'est l'équivalent, je dirais, des guides du XIXe siècle qui indiquent, aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'en Italie, en Espagne, je pense au Baedeker, par exemple, qui indiquent où se trouvent les œuvres d'art, ce qu'il y a dans telle église, etc., etc. Au fond, c'est un guide qui n'existe pas sous cette forme à l'époque où Vasari l'évoque, mais c'est vrai qu'il en donne quasiment une définition précise. J'ai observé que les historiens, et on peut penser qu'il songe lui-même, en particulier à Francesco Guicciardini, dont j'ai déjà parlé, tout au moins ceux qui, d'un avis unanime, ont la réputation de posséder un excellent jugement, ne se sont pas contentés de rapporter simplement une suite d'événements. Avec le maximum de soin et de curiosité, ils ont recherché les méthodes, les moyens, les voies suivies par les hommes de valeur pour mener à bien leurs entreprises. Ils se sont ingéniés à percevoir erreurs, réussites et remèdes, ainsi que les solutions prudentes parfois adoptées dans la direction des entreprises, toutes les manières, en somme, dont celles-ci ont été conduites avec discernement ou négligence, prudence, piété, générosité. Ils sont, donc ces historiens, parmi ceux qui ont compris que l'histoire est vraiment le miroir de la vie humaine. Phrase très importante. Que son but n'est pas de raconter sèchement le sort d'un prince ou d'une république, mais de rapporter les opinions, les conseils, les décisions, les manigances des hommes qui ont entraîné leurs actions, heureuses ou malheureuses. Au fond, que nous dit-il là ? Que ce qui l'intéresse, c'est la psychologie humaine. Ce sont les mécanismes psychologiques qui sont à l'origine des actions humaines. Et qu'on ne saurait comprendre les actions humaines que si on a fait l'effort de rapporter ce qu'il énonce comme des opinions, des conseils, des décisions, les manigances des hommes. C'est cela, l'histoire comme miroir de la vie humaine. Et ça, c'est une définition qui va, au fond, être valable jusqu'à, je dirais presque jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'au XIXe siècle, qui voit l'épanouissement de la biographie individuelle, l'histoire miroir de la vie humaine. C'est aussi une profession de foi très importante, parce que cela signifie que ce qui l'intéresse, c'est la vie humaine. Ce qui l'intéresse, ce ne sont pas d'abord les objets, les œuvres d'art, mais c'est la vie qui les a engendrés, qui leur a donné naissance. D'où on comprend aussi son intérêt pour les cycles biologiques, hein, naissance, maturité, décadence ou mort. C'est vraiment cela, poursuit-il, l'âme de l'histoire, le véritable apprentissage de la vie, l'enseignement de la prudence, avec le plaisir de voir revivre le passé, c'est le vrai but de l'histoire. Il définit là, au fond, l'apprentissage d'une vie vertueuse. Les vertus civiques des habitants de Florence, ou les vertus morales nécessaires à la pratique d'un art, tout cela se trouve réuni dans cet véritable apprentissage de la vie, enseignement de la prudence. Donc l'histoire a deux buts, faire revivre le passé, et montrer cette évolution, ce développement de chaque individu comme un apprentissage véritable, comme un enseignement véritable. La leçon de l'histoire, en fait, c'est ça. Lorsque j'entrepris d'écrire la vie des grands artistes, lorsque je rassemblais toutes mes forces pour apporter aux arts mon aide et mon hommage, je me suis inspiré autant que je l'ai pu de ces auteurs éminents et j'ai employé leur méthode. Je ne me suis pas borné à dire ce qui a été fait. J'ai opéré un choix et je l'ai expliqué entre ce qui était bon, ce qui était mieux et ce qui était parfait. J'ai signalé soigneusement les techniques, les aspects, les styles, les particularités, les fantaisies des peintres et des sculpteurs. J'ai cherché aussi de mon mieux à révéler à ceux qui n'y parvenaient pas tout seuls les causes et les origines des différents styles et la courbe ascendante ou descendante suivie par les arts en des époques et des personnages différents. Donc là, il décrit bien, au fond, ce qui l'intéresse et la manière dont il va nous rendre intelligibles les œuvres d'art et la vie des artistes, à savoir que, d'abord, il opère un choix, il trie en fonction de cette courbe qui nous fait passer de ce qui est bon à ce qui est mieux et ce qui est parfait. Donc il a l'idée, indiscutablement, du progrès dans les arts. Et puis, il va jusqu'à chercher à instruire sur les causes et les origines des différents styles. Alors on pourrait dire là qu'au fond, ça prouve qu'il s'intéresse aux œuvres d'art. Bien entendu, il s'intéresse aux œuvres d'art. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas besoin de mettre en cause. Mais qu'est-ce que le style, sinon, tout de même, l'expression singulière d'un artiste ou d'une époque ou d'une région? Le style, ce n'est pas l'affirmation de l'originalité d'une œuvre d'art, c'est l'affirmation de l'appartenance de cette œuvre d'art à une famille plus large, qui est la production de l'artiste, ou la production d'une époque, ou la production d'un groupe d'artistes dans une région. Par exemple, l'art toscan. Et il nous dit que, selon les époques, il peut y avoir ces courbes ascendantes ou descendantes, n'est-ce pas ? Donc, il laisse apparaître que l'histoire qu'il va raconter va nous montrer ces sortes de grandes, ce grand déroulement, si vous voulez, montre que les arts peuvent arriver à une perfection et peuvent à nouveau tomber. En même temps, ce n'est pas tout à fait ce qu'il va dire plus loin, ce qu'il va mettre en évidence lui-même, puisqu'il va s'arrêter à Michel-Ange comme le sommet de l'artiste, comme l'artiste génial par excellence qu'on ne pourra jamais dépasser. Donc si on ne peut pas le dépasser, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour vers la courbe ascendante. J'y reviendrai aussi. Au début de ses vies, j'ai parlé de la noblesse des arts dans l'Antiquité, dans la mesure où le sujet l'exigeait. J'ai laissé de côté bien des matériaux dont j'aurais pu me servir, de Pline et d'autres auteurs. Si je n'avais voulu, peut-être contre une opinion courante, laisser chacun libre de voir directement en leur source les imaginations d'autrui. Il veut utiliser les textes de Pline dans son Histoire naturelle, les textes sur l'art, et montrer comment s'opère le jugement de ses sources, de ses modèles, c'est-à-dire de Pline lui-même. Donc, d'une certaine manière, là aussi, il veut montrer un progrès, parce qu'il considère que la façon dont lui écrit la vie des artistes et décrit les œuvres d'art est bien supérieure à celle de Pline. Donc, il veut mettre aussi là, sous les yeux du lecteur, le modèle avec ses imperfections et la production écrite de Vasari lui-même, qui dépasse évidemment de loin ce modèle. Et donc il convient de faire maintenant ce que, redoutant l'ennui et fuyant les longueurs, ennemi mortel de l'attention, il ne me fut pas permis de faire alors. Je désire expliciter ma pensée et mes intentions, et montrer pourquoi j'ai divisé cette œuvre en trois parties. Ce qu'il n'a pas pu faire en 1550, il veut le faire maintenant, parce que, évidemment, il a réfléchi aussi davantage à cette question de l'histoire des artistes. La grandeur de l'art se manifeste en chaque artiste de façon bien différente. Dans l'extrême soin de l'un, dans le zèle de l'autre, chez celui-ci, dans l'exactitude de l'imitation, chez celui-là, par la connaissance des sciences qui, toutes, servent à étayer les arts. Tous ces éléments, ou certains seulement, peuvent se retrouver chez un même artiste. C'est pour cela que j'ai beaucoup parlé, dans la vie de chacun, de sa technique, de son art, de son style, des raisons de sa réussite honorable, brillante ou exceptionnel. Donc là, l'intérêt qu'il porte à l'art, c'est, passe par l'intérêt pour la technique, pour les procédés techniques mis en œuvre par chaque artiste, leur originalité, qui conduit évidemment à l'analyse de son style et donc de son succès plus ou moins grand. Maintenant, je voudrais parler de manière plus générale, plutôt des caractéristiques des différentes époques que des personnages distincts. Je ne veux pas me perdre dans les détails et je ferai trois parties, appelons-les plutôt périodes, depuis la Renaissance des arts jusqu'à notre siècle, chacune d'elles se distingue des autres par des différences manifestes. Alors voilà comment les biographies individuels ne sont pas simplement des perles qu'il faut enfiler dans un même collier, mais ce sont des éléments qu'il s'agit de regrouper par période. Il affirme ici la nécessité d'une périodisation de son livre, une périodisation qui met en évidence quels sont les moments successifs du progrès dans les arts. Alors, toute la question est de savoir comment il va caractériser ces différentes époques. Il va les caractériser à l'aide d'un certain nombre de commentaires qu'il va faire sur les œuvres, sur les artistes, sur leur originalité plus ou moins grande, un discours relativiste qui va nous expliquer qu'à telle époque, on ne pouvait pas tout simplement parvenir à la perfection. Alors que, à l'époque de Michel-Ange, un Michel-Ange arrive au bon moment et peut parvenir à cette perfection. Donc cette relativité dans sa vision de l'histoire, ce relativisme plutôt, dans sa vision de l'histoire, est quelque chose d'intéressant, parce qu'on voit bien là comment il va pouvoir trier, hein, faire ce fameux tri dont il a parlé tout à l'heure, en mettant de côté tel ou tel artiste au bénéfice de tel autre. Alors voici comment il annonce ses parties. Dans la première et la plus éloignée, dans le temps donc, nous avons vu en effet que les trois arts étaient loin d'être parfaits. Bien qu'on y trouvât de bons éléments, ils présentaient tant d'insuffisances qu'ils ne méritaient certes pas de trop grands éloges. Toutefois, ils ont fourni un point de départ, ouvert la voie, apporté une technique aux artistes bien supérieure qui allait suivre. Ne serait-ce que pour cela, il est impossible de ne pas en dire du bien et leur attribuer quelque gloire, même si les œuvres elles-mêmes, jugées dans les strictes règles de l'art, ne le méritent pas. Donc, par rapport au tribunal qu'il préside, qui consiste à dire « voici les artistes début de l'art, disons, voici les bons artistes et voici les artistes géniaux », eh bien, dans ce tribunal, il distingue bien entre les œuvres qui sont la manifestation éloquente du génie ou de l'absence de génie, et la place tout de même que ces artistes occupent et les techniques qu'ils ont employées qui ont pu ouvrir la voie à des progrès. Dans cette première période, il inclut évidemment Giotto, les Pisani en particulier, et Cimabue, évidemment. Dans la deuxième partie, manifestes sont les progrès dans l'invention, le dessin, le style plus soigné, le soin plus approfondi. La rouille de la vieillesse, la maladresse, les disproportions dues à la grossièreté de l'époque précédente ont disparu. Mais qui oserait affirmer qu'en cette période, il s'en soit trouvé un seul, parfait en tout, qui ait atteint notre niveau actuel d'invention, de dessin et de coloris ? Qui ait respecté la règle selon laquelle une couleur plus sombre permet d'estomper doucement les personnages, la lumière persistant seulement sur les parties en relief ? Qui, dans un marbre, ait obtenu les creux et certains extraordinaires détails de finition, aussi bien qu'on le fait aujourd'hui ? La deuxième période inclut en particulier des artistes comme Masaccio, par exemple. Et en fait, ils consacrent plus de temps à nous dire ce qu'ils ne font pas que ce qu'ils font, hein, ces artistes de la deuxième période. Qui oserait affirmer qu'il s'en soit trouvé un seul parfait en tout, etc., etc., qui est atteint le niveau actuel ? Donc, il oppose la période présente à cette période immédiatement antérieure. Et c'est la troisième. La troisième période mérite toute notre attention. Toute notre admiration. Toute notre admiration. On peut dire avec certitude que l'art est allé aussi loin dans l'imitation de la nature qu'il est possible. Excusez-moi, j'ai oublié. On peut dire avec certitude que l'art est allé aussi loin dans l'imitation de la nature qu'il est possible d'aller. Il s'est élevé si haut qu'il est à craindre de le voir s'abaisser plutôt qu'à espérer désormais le voir s'élever encore. Voilà ce que j'annonçais tout à l'heure dans mon commentaire lorsqu'il disait qu'il y a des périodes où l'art progresse et d'autres où il diminue en qualité. Eh bien ici, en fait, il dit tout à fait autre chose. Il nous dit que lorsque l'art a atteint un tel degré de perfection comme de nos jours, donc à son époque contemporaine, on ne peut plus tout simplement imaginer qu'il puisse être dépassé. Donc il n'y a plus de progrès à attendre. Et c'est là que se formule finalement la vraie pensée de Vasari. C'est qu'on aurait, avec Michel-Ange, atteint un tel sommet qu'il est totalement impensable d'imaginer qu'on puisse un jour réitérer ce moment. J'ai personnellement beaucoup réfléchi à tout cela. Et je pense que ces arts, dans leur nature, ont une propriété particulière. Avoir d'humbles débuts, aller petit à petit en s'améliorant, et finalement parvenir au comble de la perfection. Ce qui me pousse à le croire, c'est de voir ce même processus se dérouler dans d'autres disciplines. Un certain degré de parenté entre tous les arts libéraux est un argument de poids qui prouve que je suis dans le vrai. La peinture, comme la sculpture, en d'autres temps, eurent un sort si semblable qu'elles auraient pu échanger réciproquement leur nom sans modifier leur histoire. On voit, si l'on en croit ceux qui vécurent alors et purent voir et juger les travaux des artistes antiques, que les statues de Kanakos étaient très grossières, sans vie et sans mouvement, fort éloignées donc du réel. On peut en dire autant de celles de Calamis, bien qu'elles fussent un peu plus affinées. Ensuite vint Miron, qui n'imita pas scrupuleusement la nature, mais qui donna à ses œuvres de si justes proportions et tant de grâce qu'on peut à juste raison les qualifier de belles. Au troisième stade arriva Polyclète et les sculpteurs les plus célèbres qui, on le dit et c'est vrai, atteignirent l'entière perfection. Une progression identique se réalisa sans doute pour la peinture. Cela a été dit et est très vraisemblable. Dans les œuvres de ceux qui n'employèrent qu'une seule couleur et pour cela furent appelés monochromes, la perfection est loin d'être atteinte. Monochrome, évidemment, ce n'est pas le monochrome d'Yves Klein, c'est monochrome dans le sens où on utilise simplement une couleur pour colorier les figures. Plus tard, dans les œuvres de Zeuxis, Polygnote, Timanthe et autres, qui en employèrent quatre, on loue le trait, les contours, les silhouettes, mais, sans aucun doute, ce n'était pas totalement satisfaisant. Mais ensuite, avec Hérion, Nicomaque, Protogène et Appel, tout fut perfection et beauté, et il est impossible d'imaginer mieux. Ils ont su peindre à la perfection non seulement le corps et ses attitudes, mais aussi les sentiments et les passions de l'âme. Ça, c'est une des grandes préoccupations des artistes de l'époque de Vasari, et de Vasari en particulier, c'est-à-dire des artistes de la Renaissance, tous, c'est de varier les positions des corps, des gestes, des attitudes, de l'expression physionomique et de montrer les affects, les sentiments et les passions de l'âme. Mais abandonnons ces artistes lointains, puisqu'avec eux, il faut toujours s'en référer à autrui, c'est-à-dire Pline, dont le jugement et, ce qui est plus grave, la chronologie, sont souvent erronés, encore que j'ai toujours suivi les meilleurs auteurs. Venons-en à notre époque. Notre œil est bien meilleur guide et juge que notre oreille. Commençons par l'architecture. Donc ça, c'est encore une profession de foi, c'est pas notre œil est meilleur guide et juge que notre oreille, c'est-à-dire l'oreille qui entend les textes anciens, les sources anciennes. Ne voit-on pas clairement les progrès, parce que j'ai encore oublié de passer. Oui, voilà, pardon. Ne voit-on pas clairement les progrès acquis depuis le grec Buschetto jusqu'à l'allemand Arnolfo et jusqu'à Giotto? Buschetto, on en a déjà parlé, c'est un des architectes de la cathédrale de Pise, et Arnolfo est évidemment Arnolfo di Cambio. Regardez les ouvrages qui existaient à cette époque, les piliers, les colonnes, les bases, les chapiteaux et toutes ces corniches mal charpentées. Vous en voyez à Florence, à Sainte-Marie de la Fleur et dans les incrustations extérieures à Saint-Jean, c'est le baptistère, à San Miniato al Monte, à l'évêché de Fiesole, à la cathédrale de Milan, à Saint-Vital de Ravenne, à Sainte-Marie Majeure à Rome et à l'ancienne cathédrale hors les murs d'Arezzo. Si l'on accepte ce qui reste des fragments antiques, il n'y a rien là qui soit d'une belle ordonnance ou de bonne facture. Les auteurs de ces œuvres, cependant, améliorèrent beaucoup l'architecture et firent un grand nombre de nouvelles acquisitions. Ils obtinrent de meilleures proportions, leurs constructions sont équilibrées et solides, et de plus, décorées par endroits. Certes, les ornements sont hétéroclites et assez médiocres. En d'autres termes, leur fonction décorative est limitée. Pour les colonnes, ils n'observèrent ni les mesures ni les proportions réclamées par l'art. Ils ne firent pas de distinction entre les ordres doriques, corinthiens, ioniques ou toscans, mais ils mélangèrent tout, suivant leurs règles, qui n'en étaient pas. Ils les firent très massives ou toutes fines, comme cela les arrangeait le mieux. Leurs créations sont issues par moitié de leur cerveau, par moitié des antiques qu'ils avaient sous les yeux. Ils faisaient des plans mi-bons, mi-fantaisistes. Une fois les murs élevés, cela donnait tout autre chose. C'est une critique assez dure, mais bien construite, de cette architecture du XIVe siècle, début du XIVe siècle pour certains de ces monuments, pour d'autres remontant encore à l'époque romane. Et cette critique reprend en partie une terminologie et des appréciations qu'on entendra lorsqu'il parlera avec une grande férocité de l'architecture gothique. Le non-respect des règles, le non-respect de ce que l'Antiquité nous apprend est à l'origine de toute cette architecture qui ne lui convient apparemment en aucune manière. Nous faisons une courte pause avant de reprendre.